Bonjour, Ethem Eldem, titulaire de la chaire internationale d'histoire turque et ottomane au Collège de France, est intervenu dans le cadre des conférences de l'Institut d'études avancées de Nantes, au lieu unique, sur le thème « La dérive autoritaire en Turquie, rupture ou continuité ?».
J'ai été élu donc l'année dernière sur une chaire d'histoire turque et ottomane, une chaire internationale d'histoire turque et ottomane qui me permet de conserver mon boulot à Istanbul, puisque j'enseigne aussi à Istanbul. En gros, je vais partager mon temps entre Paris et Istanbul. Paris en hiver, notamment en janvier et en février, puisque les cours, c'est 9 heures par an. 9 heures que j'essaie d'organiser en 6 semaines, avec des cours d'une heure et demie. Et le reste, ce sera ce que je fais depuis 30 ans, l'enseignement à Istanbul. Deux enseignements très différents, l'un avec des étudiants, l'autre avec un grand public. C'est différent, mais c'est très enrichissant. Et puis, c'est un moyen de renouer avec la turcologie française, les ottomanisants, les ottomanistes français, qui sont pour la plupart parisiens, qui sont en gros, qui gravitent autour du Collège de France, la bibliothèque d'études turques, arabes et islamiques du Collège de France, et l'école des hautes études en sciences sociales, et l'INALCO aussi un peu. Voilà, c'est le programme pour en tout cas 5 ans.
Il a fallu 5 ans pour remplacer votre prédécesseur ?
Ah, mais de toute façon, le collège, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire qu'on les chaires, lorsque, pour une raison ou pour une autre, elles s'éteignent, il n'y a aucune raison pour les recréer, à moins qu'il y ait un candidat, à moins que un professeur ou un collège de professeurs ne demande la recréation d'une chaire ou la création d'une nouvelle chaire avec ce n'est même pas de la recréation en fait, c'est la création d'une nouvelle chaire avec le même titre. Donc le principe du Collège de France est dans la continuité, la pérennité de chaque chaire, mais lié à son titulaire. Une fois que la chaire s'éteint, il n'y a pas de raison immédiate pour la recréer. Donc il n'y a pas eu vraiment d'interruption, puisque ce n'était pas prévu de... Mais c'est vrai que Henri Laurence, qui occupe la chaire du Moyen-Orient moderne, voulait avoir un ottomaniste. Il pensait que c'était, et je pense que c'est de bonne guerre, et comme je travaille en plus sur l'histoire des collections, l'histoire de l'archéologie, il y a d'autres chaires qui sont directement connectées à ce que je fais, ne serait-ce que Bénédicte Savoie qui travaille sur l'histoire des collections, Dominique Charpin, la Mésopotamie, Nicolas Grimal, l'égyptologie, Grenet qui fait l'Asie centrale. Donc il y a plusieurs moyens de s'incruster et d'articuler les savoirs et la collaboration, la recherche autour de thèmes qui gravitent autour d'une certaine géographie.
Le sens de ma question, c'était est-ce que c'est parce qu'on trouve le bon candidat et donc on poursuit les recherches et les enseignements, ou est-ce que ça correspond à une préoccupation du moment ?
Je ne peux pas parler au nom de mes collègues qui ont décidé de m'élire, donc je ne sais pas. Mais je ne pense pas que ce soit vraiment une préoccupation immédiate, actuelle, politique. C'est quand même dans les traditions de la maison, du Collège de France, que de faire de l'orientalisme à l'ancienne, c'est-à-dire l'étude des sociétés orientales. Et franchement, l'Empire ottoman, c'est un gros morceau qui aurait manqué à l'appel s'il n'y avait pas. Donc je ne pense pas que ce soit une priorité, entre guillemets, politique qui ait motivé ce choix. Ce qui a changé, c'est que je suis turc, et que ça, c'est assez nouveau dans la tradition de la maison. Les étrangers, et ceux du sud ou de l'est, sont assez rares encore. Et ça, c'est un changement que je trouve assez intéressant, et je trouve que c'est très sain, quoi.
Et le turc que vous êtes va apporter un regard turc ?
Non. Non, parce que justement, le regard turc, c'est ce que je critique à longueur de journée. D'ailleurs, les regards nationaux ne m'intéressent pas. Un regard français ne m'intéresserait pas non plus. Donc, je pense que l'histoire devrait être regardée sans état d'âme et sans allégeance politique, nationale, etc. Bon, bien sûr, le fait d'être turc, ça me donne une affinité, déjà linguistique, une pratique du pays, de la société, qui est, somme toute, assez utile. Mais en gros, je veux dire, les plus grands noms de la turcologie ne sont pas forcément turcs. Il y a de très grands noms, et Gilles Weinstein est un bon exemple d'un occidental, d'un français, qui avait une très bonne réputation dans l'histoire ottomane, sans être turc. Donc je ne pense pas qu'il faille nécessairement être turc pour faire de la bonne histoire ottomane, mais d'un autre côté, je pense que c'est bien qu'une institution qui, jusqu'ici, était quand même très franco-française, s'ouvre à la diversité, à la différence. Donc... Oui, je crois qu'on gagne sur les deux côtés.
J'ai eu l'idée d'aller voir la liste des présidents turcs depuis Kemal Atatürk.
Oui.
Il y a eu des intérims suite de décès. Il y a eu les présidents réélus, mais après avoir fait des coups d'État.
Oui, ou alors tout simplement parce qu'ils avaient pris leur retraite en tant que chef d'État-major. Donc il y avait une militarisation, en quelque sorte, de la fonction présidentielle, qui était une fonction extrêmement symbolique. Mais quand même, un point de contrôle du système kémaliste qui, en gros, était articulé autour de l'armée, la magistrature et la présidence. Ces trois points étaient, de 1960 à 1980 et des poussières, ces trois points étaient bloqués par l'establishment kémaliste. Et c'est ce contre quoi l'AKP, le parti d'Erdogan, s'est insurgé à partir des années 2000. Avec raison, si vous voulez mon avis, et avec le soutien d'une section, disons, libérale de la société qui voulait la démocratisation du système. Et avant cela, avant 60, vous avez Atatürk pendant 15 ans, et son successeur, son digne successeur, İsmet İnönü, qui appartenait à la même école, lui aussi, donc militaire, devenu civil par la suite, mais représentant en quelque sorte l'âme de la guerre d'indépendance et la transition un peu révolutionnaire, ou du moins qui se prétendait révolutionnaire de l'Empire ottoman à la République de Turquie, ce jusqu'en 1950. Et de 50 à 60, vous avez eu la première tentative, et qui rappelle un peu celle d'aujourd'hui, la première tentative de casser un peu le carcan kémaliste avec Menderes, mais qui a commis la même erreur, c'est-à-dire qui a commencé par un jeu démocratique et a fini par s'y plaire et par conséquent à vouloir essayer de modifier le système de manière à garantir sa propre survie politique dans le système. Je crois que cette façon, dans tous les systèmes politiques, les hommes politiques, les hommes surtout, sont obsédés par ça, conserver le poste, le fauteuil, le pouvoir, et la seule chose qui puisse résister à cela, ce sont des institutions. La faiblesse du système turc est que ces institutions étaient en gros liées à une idéologie qui elle-même était assez carrée, le kémalisme, et que ces institutions, ce n'étaient pas des institutions démocratiques ou des institutions sur lesquelles on voudrait fonder un système démocratique et libéral, c'était l'armée et une magistrature qui, en gros, servait la cause kémaliste. Donc c'est là une faiblesse inhérente du système turc que je relie, et c'est là que je parle de continuité, que je relie à la transformation du système sous Abdülhamid à la fin du XIXe siècle. C'est-à-dire le passage de la modernité telle qu'elle était conçue par une élite bureaucratique qui voulait instaurer une sorte d'état de droit, mais très conservateur, bien sûr, une sorte de modernisation par le haut. Et cela a été remplacé sous Abdülhamid par une autocratie qui, en gros, a vidé l'État de ses institutions pour les remplacer par déjà une armée extrêmement puissante, contrôlée par le souverain, les forces de l'ordre, et sinon un assujettissement de toutes les autres institutions, ce qui équivaut en fait à un démantèlement de ce que l'on associe généralement avec l'État. Et par conséquent, une mainmise sur le système, et je crois que tous ses successeurs, que ce soit les jeunes turcs, les unionistes, les kémalistes ou aujourd'hui l'AKP, ont en quelque sorte hérité d'un modèle, d'un exemple qui est très tentant, puisque en gros, ce que le modèle vous dit, c'est que si vous arrivez à conquérir l'État, plus personne ne peut vous arrêter. Et il n'y a pas d'institution, il n'y a pas la Cour constitutionnelle, elle existe bien sûr, mais elle n'est pas assez puissante et pas assez fortement implantée dans la tradition politique pour empêcher cette dérive, cette conquête par l'intérieur de l'État par le gouvernement. En gros, si vous voulez, c'est le fait que, et ça je reconnais que c'est un peu partout la même chose, il y a toujours une tendance du gouvernement à essayer d'effacer la frontière entre gouvernement et État, mais c'est ça, je veux dire, ce qui fait l'autonomie de l'État, ce qui garantit en quelque sorte une sorte de pérennité d'un système politique, c'est le fait que le gouvernement ne puisse pas modifier l'État selon ses propres priorités, ses propres caprices, ses propres désirs.
Erdogan, élu en 2014 comme président.
Alors, le parti qu'il représente a gagné les élections en 2002. Il ne les a plus perdus depuis. Et ça, c'est une question qui est revenue à plusieurs reprises lors de la conférence d'hier. Quand on parle de la différence entre le système turc, entre le populisme ou l'autoritarisme turc et d'autres systèmes, notamment dans la région, je crois que la différence majeure, c'est le fait qu'il y a derrière Erdogan un soutien populaire qui se traduit par une base électorale légitime. Et ça, ça fait toute la différence. C'est-à-dire, c'est extrêmement différent du genre d'autocratie ou d'autoritarisme que l'on voit au Moyen-Orient, que ce soit Bachar al-Assad ou que ce soit Sisi, en Égypte, etc. Donc c'est quelque chose qui ressemble plus à du poutinisme ou à du trumpisme, si on veut, puisqu'il y a derrière ce pouvoir une légitimité électorale. Le fond du problème est justement de confondre majorité avec démocratie. À partir du principe qu'à partir du moment où on a une majorité, on a le droit de faire ce qu'on veut et que la minorité, même si elle représente 49%, compte pour des prunes, quoi. Qu'elle n'a pas le droit à la parole, elle n'a pas le droit et qu'elle doit être respectueuse de la victoire de la majorité. C'est un peu comme ça que le jeu se joue en Turquie. Et c'est là qu'est le problème, puisque la démocratie, ça n'est pas une question de majorité, c'est au contraire une question de minorité, de protection des minorités, de garantir le fait que les minorités, voire même l'individu, puissent survivre dans un système sans avoir à céder à la pression de la majorité. C'est ça. Mais ça n'appartient pas, ça ne fait pas partie de la culture politique en Turquie. Et encore une fois, si je parle de continuité, c'est justement pour souligner le fait que Erdogan lui-même n'est pas le problème. Il n'est qu'un épiphénomène. Il appartient à une mouvance qui s'explique par une tradition politique bien ancrée, qui a été répétée avec des variantes, mais qui, en gros, convainc l'électorat turc de la légitimité de ce majoritarisme.
Donc s'il est soutenu par une majorité, on a du mal à comprendre. Pourquoi s'en prendre aux intellectuels, aux universitaires, aux journalistes ?
Parce que les intellectuels, les journalistes, notamment ceux qui ne vont pas dans le sens de l'idéologie ou des choix de la majorité, ils sont « dangereux », entre guillemets. Ou alors ils s'écartent du droit chemin. C'est-à-dire que là aussi, c'est quelque chose que je relis à la tradition hamidienne de Abdülhamid. Ce que Abdülhamid a réussi à faire, avec 30 ans quand même, un règne de 30 ans, une autocratie de 30 ans, ça laisse des traces. Et par conséquent, il a pu remplacer la logique d'une sorte d'état de droit par un état d'exception, un état d'urgence constant, la patrie en danger. Ce qui était vrai d'ailleurs dans le cas de l'Empire ottoman à la fin du XIXe siècle, sans entrer dans les détails, la raclée que les Ottomans ont reçue des Russes après 1978, c'est une défaite énorme qui cause l'exode de centaines de milliers de musulmans des Balkans, etc. Donc l'Empire ottoman est aux abois. Et par conséquent, ce que Abdülhamid va exploiter, c'est justement ce sens, ce sentiment d'insécurité. Et il va faire mousser, en quelque sorte, la paranoïa, la peur de la population musulmane, puisqu'il va être le premier à miser entièrement sur l'islam, sur la population musulmane, comme la seule qu'il puisse vraiment considérer comme loyale à long terme. Et par conséquent, ça, c'est la préparation de toutes les violences que l'on connaît dans les années 90 contre la population arménienne, ou même le génocide de 1915, puisque la logique derrière ce genre de massacre, que je distingue des massacres à l'ancienne, les massacres à l'ancienne, c'est des massacres ponctuels, ce sont des représailles, si vous voulez, et une fois que l'ordre est rétabli, l'armée se retire. Ces massacres-là sont modernes en ce sens qu'ils sont fondés sur la question de c'est nous ou c'est eux. C'est ça, en fait. Et ça, c'est très moderne. Un empire ne fonctionne pas comme ça. Un empire, au contraire, il fonctionne avec une sorte d'acceptation de la diversité, de la variété, sans égalité. Parce que c'est ça qui fait tourner l'empire, le fait que les musulmans se considèrent supérieurs aux autres. Et les autres l'acceptent. Et ça fait tourner la machine.
Eten Eldem, titulaire de la chaire internationale d'histoire turque et ottomane au Collège de France, est l'invité du magazine.
À partir du moment où vous avez des gens qui revendiquent l'égalité et que vous vous sentez acculé aux abois à cause de... C'est là que la violence devient une sorte d'instinct de survie. Et c'est ça, en fait, la sacralisation de l'État comme étant confronté à un risque, à un péril énorme. Et par conséquent, la sacralisation de l'État qui passera, dont la survie passera avant les droits des individus, les droits des communautés, les droits de... Et ça, c'est quelque chose que tous les gouvernements turcs ont conservé. Les unionistes, après un petit paradis de 3 ans après la révolution de 1908, ils vont se militariser. De toute façon, ils vont se retrouver dans une situation de guerre à partir des guerres balkaniques et ensuite la Première Guerre mondiale. Et par conséquent, ils vont jouer la carte, encore une fois, de la survie. Et ils vont utiliser ça comme un moyen de tout simplement passer outre ce que l'on considérait être les droits des individus ou des communautés. Le kémalisme, ça a été pareil. Là aussi, l'argument, c'est on a perdu l'Empire, on a été envahi, on s'est battu pour recréer un État-nation, la Turquie, et par conséquent, nous sommes encore assiégés, nous sommes encore traumatisés, et par conséquent, l'État, la patrie, l'idéologie de l'État passe avant tout autre détail, les détails étant justement les droits des individus, etc. Et ça a été conservé, je veux dire, c'est dans la rhétorique de l'État, le fait qu'on meurt pour la patrie passe avant tout, et ça s'est repris aujourd'hui par l'AKP dans le contexte de la lutte qu'il mène contre les gulenistes ou la lutte qu'il mène contre le PKK. Vous avez sans cesse la recréation, en quelque sorte, de cet état de péril, péril en la demeure, qui justifie que l'État prenne des mesures d'exception, des mesures d'urgence pour stabiliser et pour garantir la survie de l'État. Seulement, comme l'État a été conquis par le gouvernement, en gros, la survie de l'État, c'est en fait la survie du parti. La frontière est extrêmement poreuse entre les deux. Et encore une fois, le CHP, le Parti républicain du peuple, le parti d'Atatürk, il s'est formé et il s'est constitué en parti unique, à peu près avec la même logique que l'AKP aujourd'hui. Donc il y a des antécédents. Et ce sont des antécédents qui sont profondément ancrés dans la culture politique et populaire de la Turquie. Donc Erdogan n'est pas tombé des cieux, ce n'est pas une sorte de nouveauté. Non, il s'inscrit dans une forme de continuité puisqu'il est lui-même un enfant terrible peut-être, mais un enfant de la révolution kémaliste, du système kémaliste. Et par conséquent, même quand il pratique une politique un peu plus islamisante, beaucoup moins laïque, etc., il le fait avec des instruments que l'on arrive facilement à identifier comme les instruments du kémalisme. Et ça, bien sûr, l'opposition qui est encore kémaliste ne peut pas l'accuser de kémalisme. Vous voyez, donc il y a une sorte de cercle vicieux où la logique de l'opposition disparaît du fait que l'opposition elle-même a un passé autoritaire, un héritage autoritaire et un avenir qui serait autoritaire, puisque en gros, ce qu'il voudrait, c'est être calife à la place du calife, en gros. Donc c'est là qu'est le problème. Tant que la chose politique, tant que le débat politique n'est pas axé vraiment, uniquement, sur des questions de démocratie, de droit, on ne sortira pas de cette logique viciée d'un État sans cesse aux abois qui se retrouve à la merci d'un gouvernement et d'une majorité ou d'un gouvernement qui prétend avoir une majorité, qu'il l'a en fait, en grande partie, d'autant plus que maintenant il arrive à jouer un peu plus sur l'extrême droite, à racoler des voix du MHP, du Parti de l'Action Nationaliste, et il arrive à élargir un peu sa base électorale grâce au conflit kurde, puisque c'est quelque chose qui, en Turquie, fédère un peu toute forme de nationalisme, y compris celle du CHP, de l'opposition, du parti de l'opposition.
Vous illustrez très bien de l'intérieur cette continuité, mais est-ce qu'on peut de l'extérieur parler de rupture ?
J'ai comme l'impression que depuis un an à peu près, l'Europe commence à se faire une raison et par conséquent à accepter la réalité turque telle qu'elle est, tant que la Turquie reste ce bastion contre les réfugiés, contre l'immigration, etc. Donc il y a une marge de manœuvre là. D'autre part, c'est vrai, le réflexe de l'Europe est de miser sur l'armée plutôt que sur la démocratie, si l'armée peut garantir la laïcité. Il y a une obsession pour la laïcité. Or, on sait que la laïcité kémaliste, c'était un décor de théâtre. C'est-à-dire que ce n'était pas de la vraie laïcité, elle ne donnait vraiment pas l'égalité aux non-musulmans, d'autant plus que des non-musulmans, il en restait à peine 1% de la population. La laïcité turque, elle avait quelque chose qui plaisait bien sûr à l'Europe, puisque la laïcité turque, elle était faite pour contrôler l'islam politique, à coup de trique, par le biais de l'armée. Et par conséquent, quand la Turquie accuse l'Europe d'avoir flirté avec l'idée de soutenir le coup d'État manqué de l'année 2016, je pense que c'est un peu vrai. C'est un peu vrai. Je crois que pour l'Europe, le maintien d'une Turquie laïque, stable, qui fait justement obstruction à tous les dangers que l'on imagine au-delà de la Turquie, au sud et à l'est de la Turquie, ça compte beaucoup plus que la démocratisation de la Turquie. Et là, je crois que l'Europe en est venue à réaliser que, après tout, puisqu'il a une base électorale solide, il faudra probablement jouer avec cet acteur-là et essayer de l'amadouer, essayer de le ramener à un équilibre qui soit acceptable pour l'Europe, et tout simplement laisser tomber la mission civilisatrice de la démocratie, etc. Donc vous avez bien sûr certains partis en Europe qui ont toujours ces principes démocratiques, qui mèneront une bataille pour le rétablissement ou l'établissement de la démocratie en Turquie, mais en gros, les cabinets européens, je crois, se contenteront d'avoir une Turquie qui ne soit pas trop agressive et qui soit plus ou moins stable et permette de jouer un peu le rôle qu'elle a joué depuis la guerre froide.
L'intégration de la Turquie à l'Europe aurait accompagné, facilité les choses ou pas ?
Avec des si, on met la Turquie en bouteille.
Est-ce que ça contribuait à...
Je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il y a deux versions et je pense que les deux sont plus ou moins valables. L'une dit que l'Europe a été au début un peu trop coulante, dans les années 90, un peu trop coulante avec la Turquie, et que par conséquent, elle lui a fait miroiter l'accession à l'Europe comme quelque chose qui était au coin de la rue, pratiquement. Et puis ensuite, ça a été l'inverse, c'est-à-dire tout d'un coup, la douche froide, la réalisation que tout compte fait, la Turquie dans l'Europe, c'était pas... Et que l'Europe aurait recours, encore une fois, au populisme, c'est-à-dire au plébiscite, etc., pour essayer d'enrayer l'accession de la Turquie. Donc la Turquie a été quand même un peu malmenée ou ballottée, d'autant plus que la Turquie a toujours eu une attitude extrêmement sentimentale, émotive envers l'Europe. Ça a été « je t'aime moi non plus ». Enfin, c'était très problématique. Ça n'a jamais été une véritable réflexion sur les conséquences, les implications de l'accession si elle se faisait, notamment en ce qui concerne la transformation du système, des droits, etc. Les Turcs ont toujours vu l'Europe comme une sorte de manne économique et ils ne se sont pas tellement souciés des conséquences que cela aurait pu avoir en matière de transformation du système juridique, politique, etc. Donc, je ne sais pas, je ne peut pas spéculer sur ce qui serait arrivé si, etc. Mais enfin, je pense qu'en gros, ça a été mal géré. En gros, ça a été assez mal géré. Trop d'enthousiasme au début, trop de bâtons ensuite. Ça n'a pas bien marché. Je crois que, de toute façon, il ne faut pas miser sur une réaction turque à une attitude européenne. Il faudrait que le désir de démocratie vienne de la Turquie. Or, c'est là qu'est le problème, puisque depuis des décennies, depuis Abdülhamid, mais aussi depuis le début de la République, la Turquie a affiché une vitrine démocratique sans vraiment pratiquer l'essence de la démocratie. C'est-à-dire que ce que vous identifieriez avec l'instruction civique, dans le bon sens du terme, a toujours été complètement absent de l'enseignement. Par conséquent, les jeunes générations ont plutôt appris l'histoire, et quelle histoire, l'instruction militaire, enfin toutes sortes de choses qui nourrissent plutôt le nationalisme et le majoritarisme que la démocratie. Et par conséquent, il y a un déficit démocratique qui est fortement ancré dans la culture du pays, de toutes parts de l'éventail politique. Alors ça, c'est un problème. Je vois pas comment le résoudre, puisque, encore une fois, l'opposition n'a pas cette culture démocratique. Elle n'acquiert des réflexes démocratiques que parce qu'elle est dans l'opposition. D'ailleurs, c'est ce qui avait porté l'AKP au pouvoir. C'était la démocratie. C'était un ras-le-bol contre le système un peu vicié des coalitions dans les années 80-90. Donc, avec raison. Et puis, surtout, des problèmes de droit, notamment concernant les femmes dites voilées, qui avaient un fichu sur la tête et qui ne pouvaient même pas aller à l'université. Enfin, il y avait vraiment des atteintes à ce que l'on devrait considérer comme les droits les plus basiques de l'individu. Et c'est ça qui a porté l'AKP au pouvoir. Mais ensuite, il s'y est plu et il s'est confirmé dans le pouvoir en utilisant exactement les mêmes instruments que les autres, avec la différence qu'il a eu beaucoup plus de liberté à utiliser l'islam comme complément du nationalisme, alors que le kémalisme, parce qu'il était laïque, même si c'était une laïcité assez cosmétique, a toujours dû prendre des pincettes pour parler de l'islam. Et par conséquent, il a dû passer à côté de ce qui reste quand même l'identifiant le plus fort du Turc moyen, le fait qu'il se considère turc et musulman.
Heureusement que l'historien ne se projette pas dans l'avenir, parce que sinon, on pourrait être un peu démoralisé.
C'est démoralisant, mais de toute façon, je vous dirais que si, avec l'avantage du pessimisme, c'est que vous risquez moins d'être déçu. Vous partez déjà avec une barre assez basse. Bon, enfin bon. Mais c'est vrai que, encore une fois, lorsque je souligne les continuités, c'est parce que je les vois, mais ça ne veut pas dire que c'est le seul scénario possible. C'est le propre de l'histoire que, en fait, l'histoire, on l'a construit à rebours, c'est-à-dire qu'on finit par trouver ce que l'on sait être le point final. Et il se pourrait que la situation politique se renverse complètement. Mais encore une fois, je pense que ce qui est important, il y a trois points que je considère importants et je ne vois pas disparaître d'ici peu, pour la simple raison qu'il n'y a pas d'alternative. Le premier, c'est la faiblesse de l'État ou la faiblesse des institutions qui défendraient l'État contre cette conquête, ce siège par le gouvernement, par n'importe quel gouvernement. Le deuxième point, c'est la question de cette sacralisation de l'État. Un État vide que l'on peut conquérir, mais qu'en plus on peut utiliser comme un argument de force pour rallier le soutien populaire et pour, en gros, instaurer un majoritarisme qui met à l'écart, qui ostracise, qui exclut complètement ceux qui ne sont pas d'accord avec cette version du danger. Et il dit qu'il y en avait trois. Donc les institutions, la culture politique. Voilà, la culture politique autoritaire qui est très fortement ancrée, même à l'échelle individuelle, c'est-à-dire que ce que l'on voit se reproduire à l'échelle politique nationale, vous pouvez en voir un équivalent dans la famille, dans les relations des genres, hommes-femmes, dans les âges, les adultes et les enfants. Il y a toujours une sorte de violence, une sorte de mainmise sur l'indépendance et les droits de ceux qui sont considérés inférieurs par ceux qui s'octroient, qui s'arrogent une sorte de pouvoir. Et par conséquent, tout ça étant fortement ancré dans la tradition populaire, dans la culture populaire, je ne les vois pas disparaître du jour au lendemain. Et ça, ce sont des obstacles sérieux à la démocratisation. En quelque sorte, l'ironie, si vous voulez, c'est que ce qui provoque de la démocratie en Turquie, c'est en général l'instabilité politique. Dès que la stabilité s'instaure, vous avez une tendance à voir le pouvoir se cristalliser autour soit d'un leader, soit d'un parti, soit de l'armée, soit de... Il y a toujours cette tendance à une forme de cristallisation du pouvoir une fois que les bases sont jetées. Alors que dans les années 70, voire même dans les années 80-90, le fait qu'il y avait énormément d'instabilité politique était quelque chose qui permettait aux acteurs politiques et notamment à la société de jouer un peu plus, de jouer un rôle plus actif dans la discussion sans se retrouver acculé du fait d'une idéologie, d'une politique univoque émanant du gouvernement. Alors bon, souhaiter l'instabilité pour y gagner en démocratie, je ne sais pas, mais bon, c'est problématique.
Merci à Ethan Eldem, titulaire de la chaire internationale d'histoire turque et ottomane au Collège de France, pour sa libre participation à ce programme réalisé avec le concours de l'Institut d'études avancées de Nantes.
Ah oui, ce discours, je le tiens à Istanbul aussi. C'est-à-dire qu'à Boğaziçi, mon université, l'université du Bosphore, nous avons encore une sorte de bulle de liberté qui nous permet de ne pas mâcher nos mots et par conséquent de dire les choses telles que nous les voyons, notamment dans les sciences sociales et dans les humanités. Pour les historiens, c'est là que le travail est quand même excessivement frustrant, puisque l'histoire et donné en pâture, en quelque sorte, à la politique. Et ça, depuis la République. Je veux dire, l'histoire a toujours été vue comme un instrument pour former le citoyen, pour former la nation, pour tout ce que l'histoire ne devrait pas être, quoi. Et par conséquent, notre lutte, c'est pour l'autonomie de la discipline, pour l'histoire pour le plaisir, l'histoire pour le savoir, l'histoire pour l'érudition, toutes sortes de choses qui n'ont pas vraiment beaucoup de sens pour l'élite politique. Je serais même partisan d'éradiquer tout simplement l'enseignement de l'histoire des collèges et des lycées, plutôt que de l'enseigner comme ça. Ce qui définit le luxe de l'histoire, c'est qu'elle peut ne pas servir à grand-chose. Et ça, c'est très bien. Le côté utilitaire, voir dans l'histoire quelque chose qui va former les générations futures, etc., je trouve que c'est extrêmement problématique, c'est quelque chose qui vous limite. Et par conséquent, l'enseignement de l'histoire, c'est un enseignement qui devrait être complètement indépendant d'objectifs politiques. Et là, malheureusement, du fait de la montée de cet autoritarisme, on se retrouve dans une position assez gênante où nous utilisons l'histoire pour prouver que ce modèle politique n'est pas bon. Donc en fait, on tombe dans le piège de ce que l'on a tendance à critiquer. Donc il n'y a pas de formule idéale. Mais encore une fois, bon, l'histoire devrait être de l'érudition, du savoir, de la curiosité et non pas un programme politique à asséner sur la tête des étudiants et des élèves d'un système national.